Bien. Je suis allé une ou deux fois aux rencontres littéraires de Pau. Vous savez, les idées mènent le monde. Et c'était sur le bonheur il y a quelques années. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se pressaient aux tables où il y avait les auteurs. Et bon, pour la dédicace, mais aussi il me semblait que c'était l'occasion pour eux de rencontrer l'auteur dont le livre les avait touchés. Quand on est touché, pris par un livre, on a envie de connaître celui qui l'a écrit. Et je me souviens, il y avait beaucoup de monde pour Luc Ferry, Pascal Bruckner, beaucoup moins pour d'autres, plus inconnus. Mais il me semble que c'est un slogan d'appel pour ces rencontres littéraires ou les foires du livre. Vous allez pouvoir rencontrer votre auteur préféré. Et on pourrait dire un petit peu la même chose pour les premiers livres de la Bible. La Genèse, dont on a lu des extraits du chapitre 1 et 2. Et on pourrait dire, comme pour les rencontres littéraires, venez à la rencontre de l'auteur avec un A majuscule. Non pas l'auteur du livre de la Genèse, qui selon la tradition est Moïse, mais l'auteur de la création qui nous est décrite dans les premiers chapitres de la Genèse. Et c'est le but de ce récit, en fait, c'est de rencontrer l'auteur, rencontrer Dieu. Faut pas se tromper, le récit de la création n'est pas un récit scientifique ou une explication scientifique de l'apparition de l'univers et de la vie, mais l'intention du récit, c'est de nous parler de Dieu et de nous parler de sa volonté et de son intention, ou son dessein avec EIN, qu'il avait derrière la tête quand il a créé l'univers et l'être humain. La Genèse, comme toute la Bible d'ailleurs, nous parle de Dieu, nous est une révélation de Dieu. Et ce matin, en trois phrases, selon mon habitude, j'aimerais vous amener à rencontrer l'auteur. Et la première de ces phrases est la première phrase de toute la Bible. C'est la première phrase du livre de la Genèse. C'est Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au commencement, Dieu créa. Et cette phrase est énorme, est énorme. Chaque mot pourrait faire l'objet d'une prédication ou d'un livre, ou même d'une bibliothèque. Et je n'ai pas la prétention de faire le tour de cette première phrase, mais simplement de noter le fait qu'il y a un commencement pour la création. Et dans la Torah, ce livre s'appelle, la Torah c'est l'Ancien Testament ou le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible pour les Juifs, et s'appelle Bereshit, et c'est le premier mot, au commencement, sans article, commencement. Et d'ailleurs, Genèse veut dire aussi commencement. On aurait pu mettre origine ou commencement. Mais nous l'avons dit, la Bible n'est pas un livre de science. Mais aujourd'hui, la science nous dit qu'effectivement, il y a eu un commencement. Vous savez, dans les années 50, paraît-il, je l'ai lu, hein, la théorie scientifique en vogue était celle de l'état stationnaire. L'univers était dans un état stationnaire, il était stable, il était éternel. Une conception qui avait en fait ses racines dans la philosophie grecque qui veut que l'univers ait toujours existé et qu'il n'y a pas de commencement dans la philosophie grecque. Et donc cette théorie scientifique de l'état stationnaire venait se heurter de plein front au premier verset de la Genèse, au commencement. Aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue qui, d'après le scientifique que vous connaissez certainement, Stephen Hawking, vous savez, celui qui est fortement handicapé moteur, hein, il dit: presque tout le monde croit à présent que l'univers a commencé avec le Big Bang, une explosion primordiale. Et une docteure en biologie cellulaire, dont le mari est pasteur, dans la région parisienne, ils font ensemble de l'implantation d'église, écrit, donc c'est une docteure en biologie cellulaire, qui s'appelle Rachel Vaughan, qui écrit: la théorie du Big Bang rejoint l'affirmation fondamentale de la Genèse, à savoir qu'il y a eu un début de l'univers et où tout ce qui existe surgit du néant. Oui, il y a eu un commencement, et Dieu lance sa création avec un moyen extraordinaire, il le fait avec sa parole. Et il dit que la lumière soit, et elle fut. Et plusieurs fois, cette expression revient, et Dieu dit, et nous avons même au verset 26, faisons l'homme à notre image, une sorte, faisons, une sorte de délibération en interne. Il se dit à lui-même, dans une délibération dans la vie même de Dieu, peut-être une allusion à la Trinité déjà présente à la création, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Et la parole, et Dieu crée avec la parole, et l'apôtre Jean va en parler dans son prologue. La parole était avec Dieu, et tout a été créé par elle, par cette parole. Mais si nous revenons au texte de la Genèse, quelle est l'idée derrière cette création par la parole ? Cette création par la parole signifie d'abord une autorité absolue, et une liberté absolue aussi de celui qui parle. Une autorité. Il suffit à Dieu de parler, et la chose se fait. Et les séparations et les peuplements se font. Il lui suffit de parler, mais il est significatif de noter qu'il le fait. Il parle. Il a voulu, il lui a plu de rompre le silence pour créer par sa parole. Il y a une intention derrière et aussi une grande maîtrise des choses. Et le refrain, « Et cela fut ainsi », montre que l'exécution suit infailliblement le commandement par la parole. Et cela fut ainsi. Dieu dit et cela fut ainsi. Et démontre bien sa suprématie. Et quand Dieu parle, la chose se fait, et plutôt deux fois qu'une. On s'aperçoit dans le texte, littéralement, la terre verdoie de verdure, les volatiles volent, les eaux grouillent d'un grouillement, l'herbe sème de la semence. Tout cela... Et dans le texte, elle veut mettre l'accent sur l'accomplissement infaillible de la parole, sa grande liberté aussi. La parole, ce n'est pas un outil que l'on tient en main et qui est limité par la dextérité ou la souplesse de la main. La parole est infiniment libre et Dieu est libre. Libre, la parole de Dieu est libre, elle est efficace. Et cela fut ainsi, comme on l'a vu la semaine dernière avec Isaïe 55. Elle ne revient pas à lui sans effet, à vide. Et puis le deuxième aspect de cette création par la parole, c'est celui de l'intelligence, de la sagesse pour créer. Et là, je cite M. Henri Blocher, ancien doyen honoraire de la faculté de Vaux-sur-Seine, qui a écrit un livre sur la révélation des origines, et qui nous dit « La création par la parole, ce n'est pas seulement une création sans outils et sans efforts, c'est une création par laquelle Dieu montre son cœur, démontre son intelligence. » Inaugure la communication de lui-même. Merci Henri Blocher. Quand Dieu crée par sa parole, il montre sa sagesse, la cohérence de son plan et surtout son intention d'être en relation avec sa création et ses créatures. Il y a une intention dans la création. Il n'y a pas de hasard. Et on peut rapprocher cette sagesse de ce que les scientifiques appellent l'argument des ajustements fins. Allez, je fais une petite parenthèse, mais ce cosmos surgit du Big Bang a quelque chose d'extrêmement particulier, c'est qu'il peut accueillir la vie organique, c'est-à-dire nous. Nous pouvons vivre dans ce monde. Et ce n'est pas si évident que cela, parce qu'il y a des constantes mathématiques, il y en a une quinzaine, qui ont une valeur très précise pour permettre la vie. Et si une de ces valeurs avait varié d'un millionième, la vie n'aurait pas été possible ici-bas. Le cosmos est tellement finement ajusté qu'il peut accueillir la vie. Et que justement cet ajustement si précis soit le fruit du hasard est une probabilité tellement infime que statistiquement elle est tout à fait négligeable. C'est comme si le cosmos savait que nous allions venir. L'univers aurait été préparé pour les êtres humains. Au commencement, Dieu créa. Oui, il y a une grande sagesse dans tout cela. Il y a la suprématie, il y a de la liberté, il y a de l'autorité, il y a de l'intentionnalité et il y a du cœur, comme le dit Henri Blocher. Et tout cela vient de Dieu, que ce premier verset de la Genèse appelle encore Elohim. Et si on fait un détour par le Nouveau Testament, on comprend mieux alors la louange dans Apocalypse 4, des 24 représentants du peuple de Dieu qui se prosternent devant celui qui vit éternellement et qui disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, à ton intention, à ta sagesse. » Deuxième phrase, après Dieu créa, au commencement Dieu créa. Cette phrase qui nous parle du bon et du beau. Et cette phrase, elle apparaît dès le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et elle revient encore 5 fois, cette expression. Et si mes calculs sont bons, ça fait 6 fois, 1 fois par jour de création. Et ça termine par un superlatif au verset 31. Et tout cela, c'était très bon. Et cette série d'affirmations sur la bonté, beauté, contraste, me semble-t-il, avec l'expression du verset 2. La terre était, vous vous souvenez des anciennes versions, informe et vide. Aujourd'hui, la Sommeur a traduit, et c'est bien, chaotique et vide. Et ces deux mots traduisent l'expression en hébreu, tohu bohu. Vous vous souvenez, on l'utilise en français, cette expression, pour parler du désordre et de la pagaille. Mon père, quand il rentrait dans ma chambre, il disait, quel tohu bohu ici. Mais tohu bohu évoque l'idée d'un désert inhabitable où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route, avec l'idée de vide et de désolation, de solitude aussi. Une chose sans forme, un peu chaotique et surtout très vide, comme le néant peut l'être. Et Dieu créa et mit des formes à sa création, et surtout il y mit du beau, du bien et du bon. Et en hébreu comme en grec, pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, on a le même adjectif pour exprimer à la fois ce qui est beau dans le sens esthétique et ce qui est bien dans le sens moral, et ce qui est bon dans le sens bienfaisant. Et cette répétition de l'expression « et Dieu vit que cela était bon » nous montre que Dieu aime le bon, le bien, le beau. Que Dieu est un Dieu moral, éthique et esthétique. Et qu'on est très loin du Dieu punisseur et rabat-joie que des longs siècles d'histoire de l'Église ont voulu nous présenter. On ne sait pas pourquoi. Dieu veut le bien de la création, et cela dès le départ et jusqu'à la fin. Non seulement il veut le bien, mais il veut le beau aussi. Dieu fait toutes choses belles. Alors il y a un bémol. Bien sûr, vous allez objecter, ouais, mais tout n'est pas beau. Parce qu'il y a eu, au chapitre 3, une rupture avec ce Dieu créateur, et nous allons en parler, puisque j'ouvre aujourd'hui une série sur le livre de la Genèse. Oui, le mal va faire irruption dans ce monde et va apporter une ombre au tableau. Mais malgré tout, il reste dans ce monde des choses qui portent la signature de Dieu, de ce Dieu qui aime le beau, le bien, le bon. J'ai vu par hasard, s'il existe, sur YouTube, un assemblage de vidéos des caméras de surveillance dans les villes d'Angleterre, qu'il y a dans les magasins, le long des rues. Alors c'est des vidéos que la police ne voulait pas, parce que ne voulait plus, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'infraction, il n'y avait pas d'effraction, il n'y avait pas de délit, il n'y avait rien à montrer pour se mettre sous la dent des policiers. Par contre, il y avait des petites histoires superbes. Il y avait deux amoureux qui s'embrassaient sur un banc public, un peu maladroitement, mais ils étaient mignons comme tout. Il y avait quelqu'un qui ramasse quelque chose qu'une personne a perdu et qui le prend, et au lieu de le mettre dans sa poche, court derrière la personne pour lui rendre. Il y avait quelqu'un aussi qui aidait une vieille dame à traverser la rue. Il y avait quelqu'un qui aidait une dame un peu plus petite que lui pour attraper quelque chose dans le grand magasin, à l'étage supérieur. Toutes des petites histoires, mais belles, bonnes. Et qui ne servaient à rien à la police, mais qui faisaient plaisir à voir. Autre exemple, nous sommes allés voir, Yvonne et moi, vendredi soir, un film au Méliès, Le Musée des Merveilles. L'histoire de deux enfants sourds à 50 ans d'intervalle, 1927-1977, avec en toile de fond les musées de sciences naturelles de New York et le cinéma muet. Et c'était poétique, c'était musical, c'était lumineux, c'était des histoires d'amitié simple. Et ça nous a touchés, ça nous a touchés. Il n'y avait pas de baston, il n'y avait pas de super pouvoir, il n'y avait rien que du beau. Et ça nous a touchés. Et aujourd'hui encore, et aujourd'hui, nous sommes touchés par ce qui est beau ou ce qui est bien, Et pourquoi le sommes-nous ? Parce qu'il nous renvoie à ce Dieu créateur du beau et du bien, parce qu'il nous met en contact avec lui, et ce parfois de façon très diffuse. Il y a Leonard Bernstein qui a fait la musique de West Side Story, mais pas que, et qui n'est pas chrétien, qui dit de Beethoven, ce type, il parle de Beethoven, pas de respect pour les musiciens, ce type a créé des œuvres d'une justesse à couper le souffle. Justesse, c'est le mot. Quand vous avez le sentiment que la note qui suit une autre est la seule possible à cet instant, vous écoutez du Beethoven. Ce Beethoven a le pouvoir de vous conduire à cette conclusion. Il y a quelque chose de juste dans ce monde. Il y a quelque chose qui est aux commandes d'un bout à l'autre, quelque chose qui est digne de confiance, qui ne vous laissera pas tomber. Incroyable. Alors on ne sait pas comment Bernstein arrive à cette conclusion en écoutant Beethoven. Moi, quand j'écoute du Beethoven, ça m'arrive une fois tous les 10 ans, mais je n'ai pas cette impression. Mais il ressent quelque chose de l'infini face au beau, quelque chose que l'on n'explique pas autrement que par la création de monde, d'un monde où, dès le départ, le beau et le bon existent et est voulu par Dieu. Et si la science nous aide parfois à comprendre l'origine, elle ne nous permet pas de comprendre cette force d'attraction vers le bien et le beau. On est au-delà des compétences scientifiques. Elle ne peut expliquer ni comment ni pourquoi Leonard Bernstein, qui n'est pas croyant, quand il écoute la musique de Beethoven, ressent comme quelque chose qui l'élève vers le haut. Elle ne peut pas expliquer ce fait. Même si il ne croit pas intellectuellement que Dieu existe, son cœur, son être intérieur à Leonard Bernstein lui dit autre chose. Oui, Dieu crée le beau et nous invite à y participer. Je termine ce point avec une parole du Nouveau Testament, comme Apocalypse 4 pour le premier point. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, au jeune Timothée, à qui on a dit dans l'église d'Éphèse, écoute, te marie pas, c'est pas bon. Écoute, évite ces aliments, fais abstinence complète, parce que l'abstinence est bonne et ces aliments sont pas bons. Et Paul lui écrit, alors que Dieu a créé toute chose pour que les croyants en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Et on retrouve le même mot. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Comme quoi la beauté et la bonté de Dieu nous poussent à la reconnaissance et à la louange et même à la jouissance, avec modération, comme tout. Mais vivons les choses, vivons cette création dans la jouissance et la réjouissance du beau et du bien. Et puis, il y a la troisième phrase qui nous permet encore de faire connaissance avec l'auteur, avec un grand A, qui revient deux fois dans le chapitre 1 et sous une autre forme au chapitre 2. Il s'agit de la création de l'homme, de cette création de l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous l'avons au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent. » Et comme si on n'avait pas bien compris, il le répète au verset 27 en y ajoutant un autre élément important. « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. » Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes, à son image. Et là aussi, on pourrait écrire des livres juste sur ce verset, et ça a été fait d'ailleurs. Mais on peut ce matin juste donner quelques pensées ou des amorces de pensées. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'auteur, cette création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu ? Alors d'abord, et c'est tellement évident qu'on hésite à le dire, mais il y a des choses évidentes qu'il faut redire, c'est que Dieu, dès le départ, pose l'égalité de l'homme et de la femme devant lui et devant le monde et devant le cosmos. Dieu se révèle comme le Dieu de l'égalité créationnelle, de l'égalité essentielle entre l'homme et la femme. L'être humain, homme et femme, a été créé à l'image de Dieu, pas un plus que l'autre, pas un moins que l'autre. Et c'est écrit dès les premiers chapitres de la Genèse, ou le premier chapitre de la Genèse. Et on s'étonne de voir que l'Église ne l'a pas toujours respecté, cette égalité originelle. Reste un mystère, ça reste un mystère pour moi. Mais qui s'explique peut-être encore une fois par le chapitre 3, la rupture avec le Dieu créateur de l'égalité essentielle. Prochain épisode, le chapitre 3. Et cette création à l'image de Dieu signifie autre chose, c'est qu'elle confère à l'être humain, homme et femme, une valeur toute particulière. Pourquoi ? Parce que l'être humain, dans le récit de la Genèse, est fait à l'image et à la ressemblance du Créateur, et seul l'être humain est fait à l'image du Créateur. Ce n'est pas dit pour les animaux. Et en Genèse 2,7, on a aussi un traitement spécial pour l'être humain. Dieu façonna l'être avec la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et ça aussi, ce n'est pas dit pour les animaux. Alors c'est un langage anthropomorphique, c'est-à-dire on utilise le langage humain pour parler de Dieu, c'est toujours un peu particulier. Mais il est bien dit que là, Dieu donne son souffle. Et ce n'est pas dit pour les animaux. Alors ça ne veut pas dire que les animaux ne sont pas vivants. Ce sont des êtres vivants. Ça ne veut pas dire que les animaux n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Ils en ont. Ils participent à cette création joyeuse et aimée de Dieu qui sera réconciliée à la fin des temps, au dernier temps. Il y a une place énorme pour le soin et le respect des animaux dans la parole. Mais la création à l'image de Dieu pour l'être humain et à sa ressemblance veut dire qu'il y a un statut particulier de l'être humain devant Dieu. Et le mot « image », si on veut résumer, image, ressemblance, les deux sont synonymes. Faire penser à l'idée d'une filiation, d'un rapport filial. Et cette pensée est bien présente dans le texte. Être à l'image de Dieu, c'est être comme un fils ou une fille à l'image de son père ou de sa mère, comme on le dit. Oh, mais c'est le portrait craché de son père ou de sa mère. Il lui ressemble tellement. Et quand on dit cette expression, on reste au niveau physique, mais dans la Bible, quand on parle d'image, on parle de l'intérieur. Et quand on dit le portrait craché, il faudrait dire le portrait soufflé. Parce que dans Genèse 2,7, on parle de ce souffle de vie qu'il donne, ce souffle, ou de cet esprit que Dieu et l'homme partagent et avec lequel ils peuvent rentrer en relation l'un avec l'autre. Être à l'image de Dieu, c'est être des êtres spirituels et être en relation avec ce Dieu qui se révèle. Un Dieu de relation, un Dieu d'alliance, ou pour ne pas dire un Dieu d'amour. Et donc cette création à l'image de ce Dieu donne une valeur incroyable aux dites créatures. Cela ne leur donne pas le statut divin, mais quand même un statut particulier devant Dieu et donc devant les hommes. Une valeur toute particulière de l'être humain, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui des droits de l'homme. Tous les pays du monde sont classés par différents organismes selon le respect qu'ils manifestent pour les droits de l'humain. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui fonde ces droits de l'homme? Et on a essayé d'apporter des réponses diverses et variées, mais sans trop de résultats. Si on interroge des gens qui travaillent pour des associations humanitaires, pourquoi vous faites ça? Ils vous diront, ben c'est normal, c'est comme ça, c'est tout. C'est par solidarité avec l'humanité. Et c'est vrai, il y a de la solidarité, mais il faudrait essayer d'aller plus loin. Et si on cherche un peu plus loin quel est le fondement des droits de l'homme et de toute l'aide humanitaire, on arrive à Genèse 1,26. Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Un penseur antillais que j'ai rencontré, un pasteur, Jean-Claude Girondin, on a fêté l'abolition de l'esclavage, je pense que c'était en 2007 ou 2008. Et il le disait avec force, vous savez que c'est, les Antillais, ils ont dans la chair hein, ces siècles d'esclavage. La plaie n'est pas encore complètement refermée. Mais il disait que c'était cette création à l'image de Dieu qui fondait la lutte contre l'esclavage et rien d'autre. Tous nos combats et ceux de nos contemporains non-chrétiens, les luttes contre les esclavages de toutes sortes et les inégalités, les maladies, les oppressions sont fondées sur cette même parole de Dieu, la création de l'homme et de la femme à son image. Mais nous savons que cette image va être ternie. C'est toute l'histoire du chapitre 3 encore et de cette rupture, de cette relation vivifiante avec Dieu. Mais si l'image de Dieu en l'homme va être détériorée, elle ne va pas être anéantie pour autant, elle va pouvoir être reconstruite. Et ce, malgré le péché, malgré cette ombre au tableau, cette ombre sur l'image, ce flou sur l'image. Et elle va être reconstruite en Jésus-Christ. Et une parole du Nouveau Testament, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Rome, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs, tous fils et filles de Dieu, qui retrouvent en Jésus-Christ l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Retrouver en Jésus notre statut de fils et de fille à la ressemblance de Dieu, c'est toute l'histoire du salut en un seul verset. Je vous l'avais dit, ce texte pouvait nous amener très loin, et on est loin d'avoir répondu à toutes les questions. Et j'étais parti avec l'idée d'étudier le rapport entre ce récit et la science, et en particulier avec la théorie de l'évolution. Je sais que vous l'attendiez peut-être, mais c'était trop énorme. Et il faudrait pourtant en discuter, parce que c'est un sujet important de nos jours, et on n'y échappe pas à ce sujet quand on parle avec des gens, n'est-ce pas ? Oui, mais l'évolution et la création. Alors j'ai lu ces quelques jours des articles à ce sujet, et j'ai vu qu'il y avait quelques bonnes nouvelles quand même pour les chrétiens qui seraient soucieux à la fois de l'autorité de l'Écriture, mais aussi soucieux d'un dialogue ouvert et constructif avec la science. On pourrait en discuter plus avant, si vous le voulez. Mais au travers de ce récit du commencement, je crois qu'on a pu faire connaissance avec son auteur. On a pu voir que notre Dieu était le Dieu de la parole, qui parle et qui crée avec autorité, avec la volonté de communiquer avec ses créatures, en communiquant par sa parole et en communiquant sa parole. Jésus-Christ, parole faite chair. Il se révèle aussi comme le Dieu du bon qui signe toute sa création de cette signature du beau et du bien et qui nous y invite et qui nous invite à y participer, à ce beau, à ce bien, à ce bon. Et puis le Dieu de la relation qui souffle son esprit à l'homme et la femme, qui les crée à son image pour avoir une relation filiale et spirituelle avec eux. Et donc avec nous, qui sommes les descendants d'Adam et Ève, de ces premiers hommes, et donc avec toi, plus particulièrement. L'auteur de cette création vaut la peine d'être connu, n'est-ce pas ? Le connaître pour pouvoir lui rendre gloire, la gloire qui lui est due, pour pouvoir le louer. Je connais le Créateur du monde. Et si je le connais, lui qui a fait l'univers, les cieux et la terre, qui m'a créé à son image pour une relation vivifiante avec lui, je veux le louer. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Je connais le Créateur du monde.